Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'émission de l'Écho du Lac, le club journal du lycée Albert Camus à Bois-Colombes, sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Pour vous mettre en condition, je vais vous présenter un bref résumé de la pièce que nous allons évoquer aujourd'hui, Big Mother. Mise en scène de façon unique par Mélodie Mouret, Big Mother se présente comme un thriller journalistique où nous suivons l'équipe de rédaction du New York Investigation. À l'aube des élections présidentielles, les journalistes sont chargés d'enquêter sur un scandale à propos du président américain actuel qui ruine la réputation de ce dernier au profit d'autres partis politiques. Mais derrière ce scandale, qui paraissait déjà si énorme, se cache autre chose de bien pire et plus dangereux que tout ce que les rédacteurs auraient pu imaginer. La démocratie est en péril, tout autant que leur vie, mais pour eux, cela n'a pas d'importance. Leur amour du journalisme et leur volonté de faire éclater la vérité au grand jour sont bien plus grands que tout ce qui pourrait les arrêter. Cette pièce de théâtre mène à réfléchir sur la gestion de nos données personnelles et la place du peuple dans la politique actuelle.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Je suis Luna, votre présentatrice, et aujourd'hui je vous emmène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par les élèves du club journal de l'Écho du Lac du lycée Albert Camus. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons parler d'une incroyable pièce de théâtre, Big Mother. Au programme aujourd'hui, pour en parler, nous écouterons l'interview de quelques lycéennes sur le ressenti de la pièce. Nous accueillerons ensuite Asia et Héloïse pour vous raconter l'histoire des Forbidden Stories, suivie d'un débat entre Claudine et Tristan, présenté par Solène. Nous écouterons ensuite trois chroniques, une de Quentin, sur le transhumanisme et les liens avec la pièce, une chronique de Selma, sur la dépendance ou non des médias, puis une chronique de Clara, qui parlera des deepfakes et des fake news, et comment bien s'informer. Nous finirons donc cette émission avec deux dernières chroniques, celle de Luce et les parallèles entre Big Mother et 1984, et la chronique de Nathan et le scandale du Cambridge Analytica. C'est parti pour l'émission du L'Écho du Lac.
À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
Donc nous commençons donc avec l'interview de quelques lycéennes. Donc bonjour les filles.
Bonjour.
Donc quel était votre ressenti sur la pièce de théâtre ?
Eh bien, franchement, c'était incroyable parce que tout allait, c'était très dynamique, tout est passé assez vite malgré quand même la longueur de la pièce, mais c'était très agréable. Franchement, j'ai adoré.
Ouais, exactement. Moi, j'ai vraiment pas vu le temps passer et c'était la mise en scène était vraiment surprenante. Moi, j'ai pas l'habitude d'aller au théâtre et ça m'a beaucoup plu.
Ouais, j'ai beaucoup aimé cette pièce. C'était super intéressant et j'aimerais beaucoup la revoir.
Personnellement, j'ai beaucoup apprécié le rythme de la pièce, qui est assez effréné et très dynamique. La manière dont la pièce est écrite m'a beaucoup plu parce que les répliques s'enchaînent à une vitesse folle, avec une grande quantité d'informations livrées d'un coup, tout en réussissant à rester clair et compréhensible, ce qui représente quand même une maîtrise colossale du sujet. Je trouve que ça colle assez bien, que ça reflète parfaitement l'urgence et l'intensité du travail d'enquête des journalistes.
Et qu'avez-vous pensé du scénario ? Quel lien vous pouvez faire entre la pièce et le cinéma ?
Moi, le scénario m'a tout de suite fait penser à la série Black Mirror, puisque ça aborde des sujets dystopiques, mais qui sont si proches en fait, de ce qu'on vit actuellement, qu'on a vraiment l'impression que c'est le monde de demain, et ce qui rend vraiment l'histoire encore plus terrifiante, parce qu'on peut vraiment se projeter dedans, malgré le fait que ce soit un contexte dystopique. Donc.
Oui, et malgré ça, même si c'est présenté comme un thriller, c'est quand même assez drôle. Et en plus, parmi ça, on retrouve un peu des clichés du cinéma, on va dire. Aussi, par exemple, avec l'exemple de l'amour disparu qui est finalement retrouvé, ou la relation entre son patron et sa secrétaire. Enfin, c'est très intéressant. Et en plus, avec la fin qui n'est pas du tout une happy end, franchement, ça finit quand même assez mal. Et pourtant, c'est quand même assez joyeux dans le reste de la pièce, donc... Assez surprenant.
Ok, merci Lévi. Et dernière question, qu'avez-vous pensé du message politique de la pièce ?
Oui, on voit vraiment le travail essentiel des journalistes, qui est donc considéré comme le quatrième pouvoir. Donc tout ce qui est sont les médias, c'est un rôle à la fois pédagogique et aussi essentiel au fonctionnement de notre société. Grâce au journalisme, les citoyens ils peuvent se faire leur propre avis sur les faits de société.
Ok, bah merci beaucoup les filles d'avoir répondu à mes questions et plus tard pour une prochaine fois peut-être.
Merci beaucoup.
Donc nous enchaînons tout de suite avec la chronique d'Asia et Héloïse sur l'histoire de Forbidden Stories. Donc bonjour les filles.
Bonjour.
Alors, Forbidden Stories, c'est un site internet qui a été créé en novembre 2017 par Laurent Richard. Cette plateforme est dédiée au journalisme d'investigation.
Mais d'ailleurs, qu'est-ce que le journalisme d'investigation ?
Ce sont des journalistes qui mènent des enquêtes approfondies sur des sujets délicats avec pour objectif la transparence. Ce type de journalisme nécessite un maximum de documents, de sources et de témoignages et il peut avoir un impact sur la démocratie. Il concerne des thématiques assez diverses comme les droits humains, la corruption, la santé ou encore l'environnement.
Forbidden Stories compte 22 salariés et est aidé par plus de 150 journalistes et 96 médias partenaires comme le Washington Post, le Guardian ou encore Le Monde. Il est aussi soutenu par Reporters sans frontières et Freedom Voices Network. Le but de ce site est de poursuivre les enquêtes des journalistes réduits au silence à travers des emprisonnements, des enlèvements ou des assassinats. Ils peuvent ainsi terminer des enquêtes grâce aux informations transmises par les journalistes menacés, notamment grâce à la Safebox depuis 2022.
Mais c'est quoi la Safebox ?
C'est un réseau qui permet aux journalistes de sauvegarder leurs enquêtes afin qu'elles ne disparaissent pas avec eux.
Et du coup, quelles sont les enquêtes principales qui disparaissent ?
Le projet Daphné Caruana Galizia, était une journaliste maltaise enquêtant sur plusieurs affaires de corruption et de détournement de fonds à Malte. Elle faisait l'objet de plusieurs menaces, tentatives d'incendie, chiens égorgés ou encore voitures brûlées. Le 16 octobre 2017, elle est assassinée suite à l'explosion de sa voiture piégée. Grâce à Forbidden Stories, les commanditaires de son meurtre ont pu être retrouvés. Ce fut d'ailleurs la première enquête du site.
Ensuite, il y a le projet Pegasus. L'entreprise israélienne NSO Group a édité un logiciel espion nommé Pegasus ayant permis à 11 États d'espionner des journalistes, des chefs d'État dont Emmanuel Macron, des opposants politiques, des militants pour les droits de l'homme, etc. Notamment à travers leurs conversations téléphoniques sur WhatsApp par exemple. Le réseau social et d'autres grandes entreprises ont donc porté plainte contre NSO Group. L'enquête a par ailleurs soulevé de nombreux débats en plus de mobiliser beaucoup de médias. Elle a d'ailleurs causé un énorme scandale en Espagne où le gouvernement a failli tomber. C'est à ce jour la plus grande enquête de Forbidden Stories.
Et enfin, le projet Gaza. C'est une enquête en cours sur la mort de plus de 100 journalistes en moins d'un an, malgré leur gilet presse, qui serait même perçu par certains comme une cible plutôt qu'un bouclier. Une de leurs enquêtes a d'ailleurs été récemment récompensée par le EG4U Impact Awards 2024, Story Killers.
Enfin, Forbidden Stories est une plateforme à but non lucratif qui vit des dons des mécènes ou des particuliers. Une de leurs citations les plus marquantes est « Si vous stoppez l'histoire aujourd'hui, elle ressurgira demain », prononcée par Maria Ressa, qui a d'ailleurs par ailleurs reçu le prix Nobel de la paix.
Le slogan de Forbidden Stories est « Tuer le messager ne tuera pas le message ». En espérant que vous avez appris de nouvelles choses, merci à nos sources.
Forbidden Stories, Radio France et le superbe spectacle Big Mother.
Merci les filles.
Merci.
Merci.
Et tout de suite, nous passons au débat animé par Solène. Solène ?
Bonjour à tous, je m'appelle Solène Révillon et aujourd'hui, nous accueillons deux profs de sciences politiques. Donc Claudine, qui est professeure en Belgique, et Tristan, qui est professeur en Suisse. Ils vont donc participer à un débat sur la démocratie directe et la démocratie représentative en lien avec la pièce Big Mother. Donc madame, je vous laisse la parole.
Merci. Donc mon point de vue sera la démocratie représentative. Déjà, qu'est-ce que la démocratie représentative ? C'est une forme de gouvernement dans lequel la souveraineté est exercée dans des assemblées par des représentants élus.
Et moi, je vous parlerai de la démocratie directe. La démocratie directe est un gouvernement où l'ensemble des citoyens partagent et exercent directement le pouvoir. Je trouve que la démocratie directe c'est une assez bonne démocratie car les citoyens se sentent directement responsables des décisions qui sont prises et tout le monde s'engage à ce que la société fonctionne bien. On ne peut pas changer ou transformer une loi sans l'accord du peuple.
Oui, mais ça, d'accord, il y a l'accord du peuple, mais pensez-vous que le peuple, lui, a les compétences nécessaires et suffisantes, / les connaissances, pour pouvoir voter des lois ? Ils n'ont pas que ça à faire.
C'est justement ce qui est bien avec la démocratie directe, c'est que ça oblige les citoyens à vouloir que leur population soit instruite, car chacun d'eux peut être amené à décider pour le groupe. Ainsi, une véritable solidarité s'installe.
Oui, mais Benjamin Constant disait que le système représentatif n'est d'autre chose qu'une organisation à l'aide de laquelle une nation se décharge sur quelques individus. Cela permet de se concentrer sur les libertés individuelles et de ne pas penser à une politique qui compliquerait la vie des gens.
Et Rousseau, un des plus grands philosophes, refusait toute délégation de la souveraineté du peuple.
Oui, mais comparons cette liberté à la liberté des anciens. La liberté des anciens, c'est cette liberté dans l'Athènes classique qui, elle, était une démocratie directe. Seulement, voyez-vous, les gens prenaient plus de temps à voter des lois qu'avoir des pensées pour eux-mêmes, en fait. La liberté individuelle était opprimée face à la liberté collective.
Mais en France, où il y a une démocratie représentative, on voit que ce n'est pas une démocratie parfaite, car vous avez chaque jour sous les yeux des exemples de ces faiblesses, avec par exemple une élection suivie d'une dissolution. Si ça ne suffit pas pour prouver que votre démocratie n'est pas parfaite, je ne sais pas ce qu'il vous faut.
Oui, mais bon, elle a beau avoir été dissoute et que le gouvernement que le peuple aurait à voter n'est pas celui qui est mis en place, ce n'est pas une raison pour laisser le pouvoir à des incompétents. Ce n'est pas possible de faire ça.
Mais justement, ils ne seront plus incompétents, puisqu'on va vouloir qu'ils soient instruits pour permettre une bonne démocratie.
Oui, mais instruire les personnes ne revient pas à dire leur donner le pouvoir. Imaginez, l'Athènes était un endroit qui était 500 fois plus petit que la France actuelle. Pensez-vous que c'est même possible de rassembler toutes les personnes dans un seul endroit et leur faire voter des lois? Il faut faire tourner l'économie, il faut faire marcher le pays.
On n'est pas forcément obligé de les ramener. On peut utiliser des moyens comme Internet pour leur permettre de voter.
Mais justement, voyez-vous, dans cette pièce, vous vous souvenez de Mercer? Lui, c'est cette espèce de Jeff Bezos, là. Il peut manipuler les médias en engageant des influenceurs. Tous en faisant croire que vous avez décidé par vous-même l'approbation d'une loi ou d'une autre.
Mais on voit que dans la pièce, la démocratie directe est critiquée, mais bien plus par ceux qui veulent l'utiliser à leur profit plutôt que par ceux qui la veulent pour son principe même.
Mais vous savez, de nos jours, si la future génération d'électeurs, ce sont les jeunes, les jeunes d'aujourd'hui sont les marionnettes de leur téléphone. Tout ce qu'ils voient dessus, tout ce qu'ils entendent dessus, ce peut être des inventions comme des sextapes ou avec des deepfakes. Et imaginez si un politicien a eu sa tête qui est utilisée sur une image qui a un caractère sexuel pour le décrédibiliser. La personne qui a fait ça, elle manipule les médias et conditionne les personnes à voter pour le camp adverse, le camp pour lequel lui il travaillerait.
C'est donc pour ça qu'il faut instruire ces personnes pour qu'elles puissent faire la différence entre les fausses et les vraies informations.
Mais vous pensez qu'ils ont les outils même pour faire ça? C'est pas possible. Vous aurez beau les instruire sur telle ou telle chose, ils n'auront pas les outils, les connaissances nécessaires. Oui, les connaissances sont là, mais elles s'arrêtent à un certain point que imaginez, vous voyez ChatGPT aujourd'hui, c'est une machine à créer à tout ce que vous voulez, des images, des sons, tout peut être reproduit avec cette intelligence artificielle. Les gens n'ont pas les capacités, les moyens nécessaires pour contrer cette intelligente.
C'est pour ça qu'il faut garder un esprit critique dans ce qu'on voit.
Et je vous le dis, les personnes sont matrixées par leur téléphone. Ils n'ont plus... C'est la majorité du public.
Bon,
c'est
pardon, on va s'arrêter là parce qu'il me semble qu'on a dépassé le temps. Mais merci beaucoup pour votre participation à tous les deux.
Merci à vous.
On peut passer à la suite.
Merci à Solène, notre journaliste, et à nos deux professeurs de sciences politiques, spécialistes des questions de démocratie, Tristan et Claudine. On revient dans un instant, juste après une petite pause musicale.
Welcome to the internet. Have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. We've got mountains of content, some better, some worse. If none of it's of interest to you, you'd be the first. Welcome to the internet. Come and take a seat. Would you like to see the news or any famous women's feet? There's no need to panic. This isn't a test. Just nod or shake your head and we'll do the rest. Welcome to the internet.
internet. What would you prefer? Would you like to fight for civil rights or tweet a racial slur? Be happy, be horny, be bursting with rage. We got a million different ways to engage. Welcome to the internet. Put your cares aside. Here's a tip for straining pasta. Here's a 9-year-old who died. We got movies and doctors and fantasy sports and a bunch of colored pencil drawings of all the different characters in Harry Potter fucking each other. Welcome to the internet. Hold on to your socks, cause a random guy just kindly sent you photos of his cock. They are grainy and off-putting. He just sent you more. Don't act surprised, you know you like it.
On vient d'écouter Welcome to the Internet de Bo Burnham. L'émission de l'Écho du Lac continue sur Radio Campus Paris.
Et tout de suite, nous enchaînons avec la chronique de Quentin sur le transhumanisme et ses liens avec la pièce. Bonjour Quentin.
Bonjour. Oui, effectivement, dans la pièce que nous avons vue, il y a un certain aspect politico-médiatique, mais il y a aussi un aspect politico-financier. En effet, le PDG de l'agence de communication, M. Mercer, utilise l'argument de la défense de la volonté populaire pour défendre en réalité un projet transhumaniste dans lequel il favoriserait toutes les entreprises, notamment celles de la Silicon Valley. Il supprimerait donc toutes les régulations, impôts et taxes qui pèsent sur elles pour leur donner une liberté totale et, in fine, pour servir leurs intérêts. Je me suis donc intéressé à ce terme de transhumanisme qui est passé en quelques décennies d'un simple mouvement de pensée à un véritable projet politique ainsi que son lien avec le capitalisme. Tout d'abord, il est important de définir le transhumanisme. C'est donc un mouvement qui cherche à repousser les limites de la condition humaine grâce aux avancées technologiques. Au cœur de cette philosophie, il y a l'idée que les technologies peuvent non seulement guérir les maladies et prolonger la vie, mais aussi améliorer nos capacités physiques, intellectuelles et émotionnelles. Le transhumanisme repose donc sur les innovations telles que la biotechnologie et l'intelligence artificielle et entretient donc un lien étroit avec le capitalisme. Et donc, dans un cadre capitaliste, les entreprises privées jouent un rôle clé en investissant dans la recherche et le développement de ces technologies. Et la compétition sur le marché stimule donc l'innovation, rendant des solutions auparavant impensables, dorénavant accessibles. Cependant, ce modèle économique soulève des préoccupations, car si ces améliorations sont réservées aux plus riches, cela pourrait créer des inégalités croissantes et une nouvelle élite technologique. On peut donc comprendre pourquoi le PDG de l'agence de communication dans la pièce a tant besoin des entreprises privées pour réaliser son projet transhumanisme, et on peut donc aussi comprendre les velléités transhumanistes d'entrepreneurs tels que Elon Musk, qui a pour sa part créé une société baptisée Neuralink, qui a pour objectif de créer des objets qui pourraient être implantés dans le cerveau humain afin de pousser les humains à ne faire plus qu'un avec un logiciel et à suivre le rythme des progrès de l'intelligence artificielle.
Merci Quentin. Tout de suite, Selma, tu vas nous présenter une chronique sur l'indépendance ou non des médias, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Donc, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question, les médias sont-ils indépendants ou non ? Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que les médias ? Les médias se désignent-elles un moyen technique et support de diffusion massive de l'information ?
À quel type de médias faisons-nous face au quotidien ?
Au quotidien, on y retrouve la presse, la radio, la télévision ou encore Internet. On pourrait alors se demander, mais les médias, qui a le pouvoir dessus ? On constate qu'ils sont souvent sous la main de grands financiers. En France, le grand milliardaire Vincent Bolloré possède de nombreux médias. On y retrouve Europe 1, C8, CNews ou encore Paris Match.
Cela aurait donc un impact sur la filtration des informations auxquelles nous, lecteurs, avons accès ?
Oui, tout à fait. Cette concentration pose problème. Tous ces médias sont sous la coupe de ce milliardaire et doivent se plier à son image. Tous les ans, l'organisme Reporters sans frontières publie une carte mesurant la liberté de la presse dans les différents pays du monde, suivant plusieurs critères. Donc son contexte politique, économique, socio-culturel, son cash légal et sa sécurité. Si on se réfère à la carte publiée en 2024, des pays sont présentés avec une bonne situation, avec une représentation en verte. Donc on y retrouve notamment la Norvège, la Suède ou encore le Danemark. Alors que ceux considérés en mauvaise situation, donc en rouge, ici seraient plutôt l'Afghanistan, la Syrie ou même l'Érythrée.
Et la France dans tout ça ?
La France, elle, est représentée en jaune sur la carte et est considérée comme ayant une plutôt bonne situation. On peut donc clairement voir un lien entre l'indépendance des médias et leur régime politique. Plus de 85% des journalistes détenus à travers le monde sont emprisonnés ou tués dans des pays au régime totalitaire. Par exemple, on en retrouve 111 en Chine ou encore 37 au Vietnam. Ces régimes qui brident la liberté de la presse utilisent la manipulation de masse, ce qui favorise donc la désinformation. Dans les régimes démocratiques, l'État de droit est plus respecté et la presse constitue le quatrième pouvoir, malgré des dérives et des scandales qui seront évoqués dans quelques minutes. Donc pour finir, avec une citation de Blanche Marès, journaliste et responsable du classement de RSF, donc les forces politiques qui ne garantissent pas l'indépendance des médias mettent donc en péril les fondements de la démocratie.
Très bien, merci Selma.
Merci.
Clara, aujourd'hui tu viens nous parler des deepfakes et de l'éducation des médias, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui je vais aborder un sujet qui nous concerne tous, du coup les deepfakes et les fake news et leur impact sur notre démocratie. À l'ère du numérique, l'information circule plus vite que jamais. Mais avec cette rapidité viennent des dangers insidieux qui menacent les fondements même de notre société.
Et qu'est-ce que c'est une deepfake ?
Il s'agit d'une technique qui utilise l'intelligence artificielle pour créer des vidéos truquées où des personnes semblent dire ou faire des choses qu'elles n'ont jamais faites. Imaginez un discours d'un leader politique complètement fabriqué qui pourrait influencer l'opinion publique. Les conséquences peuvent être désastreuses. Désinformation, polarisation, perte de confiance dans les institutions. Je sais, vous me direz que ce n'est pas toujours simple de distinguer le deepfake de la réalité. Par exemple, quand on regarde Donald Trump. D'un autre côté, nous avons les fake news, des informations mensongères qui se propagent sur les réseaux sociaux. Elles exploitent souvent des émotions fortes pour capter l'attention. Leur diffusion rapide peut créer des divisions, attiser la haine et même influencer des élections. La combinaison des deepfakes et des fake news est particulièrement dangereuse car elle brouille les frontières entre le vrai et le faux. Une œuvre qui illustre magnifiquement ces enjeux est la pièce de théâtre Big Mother qui explore la surveillance et le contrôle de l'information. Dans cette pièce, le public est confronté à une réalité où les manipulations médiatiques prennent le pas sur la vérité, révélant comment la peur et la méfiance peuvent être alimentées par des contenus trompeurs. Big Mother nous pousse à réfléchir sur notre rapport à l'information et à la responsabilité que nous avons en tant que citoyens. Face à ces défis, l'éducation aux médias et à l'information devient cruciale. Il ne s'agit plus simplement de consommer passivement des contenus, mais d'apprendre à les analyser, à questionner leurs sources et à vérifier leur véracité. Cela implique d'acquérir des compétences critiques dès le plus jeune âge. Au pays qui a été le berceau de la philosophie des Lumières, il est crucial de se fonder d'abord sur la raison plutôt que sur les croyances ou les émotions irréfléchies. Nous, la jeune génération, avons une responsabilité particulière en agissant en tant que citoyens avertis, capables de naviguer dans cet océan d'informations.
Et du coup, comment l'éducation peut-elle avertir les jeunes de nos jours ?
En cela, les établissements scolaires ont un rôle fondamental à jouer. Intégrer des cours sur la détection des fake news, organiser des ateliers sur l'utilisation éthique des technologies, ou encore sensibiliser aux manipulations médiatiques peut faire une différence significative. L'objectif est de former des esprits critiques, capables de résister aux manipulations et de défendre notre démocratie. En conclusion, face à l'essor des deepfakes et des fake news, l'éducation aux médias n'est pas seulement un atout, c'est une nécessité. Elle est la clé pour préserver notre démocratie et garantir un débat public éclairé. Chacun de nous a le pouvoir d'être un acteur de ce changement. Alors prenons ce défi au sérieux, car l'avenir de notre société en dépend.
Merci beaucoup Clara.
Merci.
À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
L'émission de l'Écho du Lac continue sur Radio Campus Paris.
Aujourd'hui, nous accueillons Luce, qui va nous faire une chronique sur les parallèles entre Big Brother et 1984. Bonjour Luce.
Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je vais commencer par résumer 1984. Donc 1984 est un roman écrit par George Orwell. C'est un roman dystopique qui se déroule dans le futur, dans lequel chaque geste et comportement est surveillé par le gouvernement. Celui-ci est présenté par une entité, Big Brother, présent sur des affiches collées sur tous les murs de la ville, avec le slogan « Big Brother is watching you » ou « Big Brother vous regarde ». C'est un roman qui a engendré un grand impact à sa sortie, car c'est un roman innovant et terrifiant. Surtout, ce roman a été écrit après la guerre et fait écho à celle-ci. On peut aussi retrouver des similitudes entre la dictature de 1984 et le régime nazi et soviétique.
Du coup, quels sont les liens que tu peux faire entre Big Brother et Big Mother ?
Alors tout d'abord, le plus grand point commun entre Big Mother et Big Brother et que les deux entités épient et surveillent les paroles et les gestes de chacun. Néanmoins, ils récupèrent ces données pour des raisons différentes. Si Big Mother essaie d'influencer et contrôler nos pensées et nos avis, Big Brother surveille la population pour évincer les opposants à la dictature. Une autre différence, la présence de Big Brother est connue de tous, à l'inverse de Big Mother, qui, elle, agit dans l'ombre. Néanmoins, dans chaque cas, nous sommes obligés de nous y soumettre de manière volontaire ou non, ou même par la force et la violence dans le cas de 1984. Aussi, Big Mother et Big Brother sont tous les deux immatériels dans le sens où Big Mother est un logiciel programmé et Big Brother un idéal, un but à atteindre selon le gouvernement et on doute de son existence. Dans les deux cas, on enlève aux citoyens leur droit de s'exprimer en les privant de liberté, un principe essentiel.
Merci beaucoup, Luce.
Merci.
Bonjour, Nathan.
Bonjour.
Aujourd'hui, tu vas nous parler du scandale Cambridge Analytica.
Exactement, oui. Donc, à ce jour, l'un des plus gros scandales de l'histoire de la politique états-unienne. Tout d'abord, on va remonter un petit peu le temps. Donc, on est en plein milieu de l'année 2014 et la société Cambridge Analytica est fondée par un certain Alastair McWilson. Mais derrière ce nom se cachent en réalité trois hommes. Alexander Nix, qui est directeur de la société, qui est connu pour être climato-sceptique et pro-Trump. Stéphane Bannon, qui est un militant du parti conservateur et qui va devenir conseiller de Trump. Et il y a également Robert Mercer, qui est actionnaire, il est anti-avortement, pro-Brexit et pro-Trump. La société est donc nommée avec le nom de la prestigieuse université de Cambridge, bien que cette entreprise n'a aucun lien avec elle. Les bureaux sont situés à Londres, donc tout est fait pour que cette entreprise ne soit pas vue comme une entreprise états-unienne. Cette start-up est alors spécialisée dans l'analyse de données et elle a pour slogan « Data drives all we do ». En français, les données déterminent tout ce que nous faisons. Donc c'est un slogan qui est assez annonciateur par rapport au scandale qui va suivre. Maintenant qu'on a brièvement évoqué l'histoire de cette entreprise, on va pouvoir parler de ce fameux scandale digne d'une vraie dystopie. Cette société, donc créée en 2014, va commencer à siphonner les données pour atteindre en 2016 jusqu'à 83 millions de données d'utilisateurs. Il faut savoir que selon une étude réalisée par Michal Kosinski, le nombre de likes d'un utilisateur sur Facebook permet d'obtenir son profil psychologique d'une manière très détaillée. L'auteur de l'étude affirme que Facebook peut mieux connaître quelqu'un que ses propres collègues de bureau en analysant simplement une dizaine de likes, que le réseau connaît mieux un individu que ses amis avec 70 likes, qui connaît mieux ses propres parents avec 150 likes, mieux que son conjoint et sa conjointe avec 300 likes et même plus que la personne elle-même avec plus de likes. La société appartenant à Robert Mercer va donc travailler pour le compte de Trump lors de sa campagne à la présidentielle de 2016 contre Hillary Clinton. Cambridge Analytica va alors utiliser ces données collectées pour pouvoir effectuer de la publicité ciblée pro-Trump. Ils ont construit, je cite, « des modèles qui utilisaient ce qu'on savait d'eux ». Il entend par là des utilisateurs pour cibler leurs démons. C'est ce que nous dévoile le lanceur d'alerte Christopher Willey. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment estimer le nombre de personnes ayant changé leur vote pour Trump ou qui se sont abstenus. Mais il est évident que Cambridge Analytica a eu un grand impact sur ces élections. Donc ce scandale éclate au grand jour en 2018. Facebook est alors accusé d'avoir laissé Cambridge Analytica collecter et exploiter sans leur consentement les données personnelles de 87 millions d'utilisateurs. Pour éviter ce procès, Facebook accepte de payer 725 millions de dollars. Puis Cambridge Analytica disparaît. Donc ce scandale nous amène alors à réfléchir sur l'importance de protéger ses données personnelles sur les réseaux sociaux. Il nous permet également de réfléchir sur la manipulation dont nous pouvons être victimes. Merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup Nathan. C'est la fin de notre émission de l'écho du lac. Merci à tous d'avoir participé à l'émission, que ce soit avec les chroniques, l'interview ou le débat. Merci à la régie d'avoir réalisé l'émission. Et bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Campus Paris.